Eh bien, bonjour frères et sœurs et bon sabbat. La poursuite de la recherche sur l'esprit humain est le sujet de nombreux articles, d'études et de livres de par le monde. On est fasciné par l'esprit humain et on a envie de comprendre son fonctionnement. Parmi les branches de la psychologie, nous avons aujourd'hui la psychologie développementale, la psychologie génétique, la psychologie dynamique, la psychologie pathologique et la psychologie sociale et bien d'autres. Néanmoins, tous les efforts à comprendre l'esprit humain n'ont qu'affleuré le sujet. Si on passe à la psychologie, de la psychologie à la physiologie, pour cette petite parenthèse, on arrive à estimer la complexité en question. Considérons l'organe du cerveau, l'organe qui gère les systèmes du corps qui soutiennent la vie, en fait les battements du cœur, la respiration, etc. Le cerveau est le siège de la personnalité et de la mémoire. Le cerveau est composé de plus de 100 milliards de cellules, y compris les neurones. Ces cellules qui sont très spécialisées du système nerveux central. Le système qui est responsable pour la transmission des impulses électriques de partout dans le corps. Voilà, système important. Les neurones ont la capacité de transmettre des signaux à des milliers d'autres cellules à un débit de 320 km par heure. Très rapide. Voici d'autres caractéristiques de votre cerveau. Le cerveau produit une puissance électrique d'à peu près 20 watts. C'est l'équivalent de la consommation d'une petite ampoule électrique. Cette puissance diminue, bien sûr, quand on dort. On estime qu'à l'âge de 20 ans, l'homme a environ 176 000 km d'axones myélinisés dans son cerveau. Une distance plus de 4 fois la circonférence de la Terre. Donc, si l'esprit humain est aussi complexe que le cerveau, voire plus, on commence à voir le grand défi de la psychologie. Pourtant, aujourd'hui, le marketing et la publicité moderne s'appuient fort sur les découvertes et les théories psychologiques. Leurs objectifs, bien sûr, sont de mieux attirer l'œil et l'oreille à la publicité, de gagner notre confiance, de garder la loyauté de ceux qui achètent leurs produits. On profite souvent des avancements dans le domaine pour cette compréhension de la subconscience et du raisonnement humain. Tout ça pour un but de nous vendre des produits, ou des idées même. Donc en tant que membre de l'Église de Dieu, que pouvons-nous faire afin de profiter des connaissances de la psychologie? Bon, si nous lisons les textes sur la psychologie sans connaître la parole de Dieu, les connaissances de la psychologie, en fait, ne nous servent pas à grand-chose, car le savoir qui n'est pas ancré dans la foi va périr tôt ou tard. Par contre, à la lumière de la Bible, des vérités bibliques, je crois que certaines connaissances de la psychologie, en particulier au sujet du raisonnement de l'esprit humain, peuvent nous informer sur certaines faiblesses de l'homme qui soulignent notre besoin de l'Esprit de Dieu. Et bien sûr, à l'approche de la Pâque et la fête des pains sans levain, nous avons tous besoin de nous préparer psychologiquement ou mentalement. Nous avons besoin de nous analyser à l'esprit, de faire des analyses personnelles de notre comportement, bien sûr, mais aussi notre façon de penser, de raisonner. Reportons-nous maintenant à l'Épître aux Romains, chapitre 8. Romains 8 et le verset 6, commençons à lire avec ce verset. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ici, Paul dépeint un contraste fondamental afin de nous exhorter à considérer jusqu'à quel point poussent nos pensées et par conséquent l'implication de ces pensées sur nos actions. De l'un côté, la mort est le résultat de l'affection de la chair, d'après Paul. De l'autre côté, la vie et la paix sont les produits de l'affection de l'esprit. Les membres de l'Église de Dieu ont reçu l'Esprit de Dieu. Comment éviter l'affection de la chair? Comment éviter ce changement, cette affection qui nous fait concentrer sur les aspects charnels, les aspects physiques, et nous fait oublier l'importance de ce qui est spirituel? D'après l'apôtre Paul, nous avons ici une question de la vie et la mort. Avant de continuer, examinons un peu plus le sens de ces deux expressions, l'affection de la chair et l'affection de l'esprit. D'abord, l'affection de la chair. Qu'est-ce que Paul veut dire par cette expression, l'affection de la chair? Si on faisait une traduction littérale de l'expression grecque, la chair signifie les muscles, la partie du corps sous la peau. Souvent, cette expression indique la chair des animaux. L'affection de la chair, alors, implique des pensées qui sont dédiées à toute chose physique, les choses qui ne sont pas spirituelles. Une traduction du sens de l'expression indique une préoccupation avec ce qui n'est pas spirituel. Relisons le passage précédent dans le contexte des versets qui l'entourent. Encore une fois, Romains chapitre 8, mais cette fois-ci commençons à lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est intimité contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Au verset 7, voyons ici que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Le nouveau commentaire biblique, autrement dit New Bible Commentary, indique à propos du verset 7, la vie charnelle ou l'affection de la chair est hostile à Dieu, frustrant les idéaux divins pour l'humanité. Il est égocentrique et en guerre avec Dieu. Par cette nature, il n'a pas la force de se soumettre à la loi de Dieu. Fin de citation. Rappelons-nous du livre de Genèse et de l'arbre de vie, et puis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal a été interdit à Adam et Ève. L'homme, par contre, Adam et Ève, avaient un certain aveuglement à la différence entre le bien et le mal. Et c'est comme ça, au début, que c'est commencé. On peut imaginer que dans cette situation idéale, on ne craindrait aucun mal, parce qu'on ne connaissait pas le mal à cette époque-là. Mais en choisissant de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme a fait un départ de la confiance totale en Dieu et il a commencé avec cette étape vers ce cheminement qui mène à la mort. Par conséquent, l'Éternel a interdit l'homme l'accès à l'arbre de la vie après ce mauvais choix. Le premier couple et tous les descendants de cette première famille sont sujets à l'affection de la chair. Autrement dit, esclaves du péché. C'est le Père qui révèle lors de son appel la possibilité de l'affection de l'esprit. Sinon, autrement, l'homme ne connaît pas l'affection de l'esprit. Il songe, bien sûr, à des idées philosophiques et spirituelles, mais il n'arrive pas, par sa propre force, à sonder l'esprit. Alors, passons maintenant à l'affection de l'esprit. Quelle est la signification de cette phrase, de cette expression? Comment peut-on comprendre ce que c'est l'affection de l'esprit? Dieu est esprit, bien sûr. Dieu appelle ceux qu'il choisit de partout dans le monde. Quand on se fait baptiser, on reçoit son esprit. Sa loi est alors écrite sur le cœur. Dieu œuvre, il œuvre dans les hommes par son esprit. Et il prépare dans les membres de l'Église son caractère divin. L'affection de l'esprit existe là où l'esprit de l'homme est en harmonie avec l'esprit de Dieu. Quand l'homme cherche à s'aligner avec la volonté de Dieu, quand il se concentre sur ce qui est spirituel, c'est une sorte d'abandon pour les choses physiques, à la préférence, à mettre une priorité élevée sur ce qui est spirituel. Et bien sûr, la loi de Dieu est spirituelle. Donc, cette idée de poursuivre la justice de Dieu, de s'aligner avec la volonté de Dieu, c'est se concentrer sur la loi de Dieu, sur les bienfaisances de la loi de Dieu et de comment on se rend obéissant à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Il y a une certaine ouverture de l'esprit qui a lieu lorsque Dieu nous appelle et lorsqu'il nous donne une inspiration par l'esprit. D'abord, il travaille avec l'esprit. Or, avant de nous donner son esprit, mais il nous inspire, il nous ouvre des vérités, il nous ouvre les yeux pour comprendre les choses spirituelles. C'est quand même un miracle. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Une révélation par l'Esprit de Dieu, c'est sa volonté qui se fait quand on comprend sa parole réellement. Quand on commence à sonder avec l'Esprit de Dieu les profondeurs de Dieu. Continuons à lire à partir du verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît des choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Ceci fait référence au fait que, à la naissance, nous avons l'Esprit de l'homme en nous. Nous avons une capacité à raisonner, une capacité à se décider, à conceptualiser des choses. Et on ne le voit pas. On ne voit pas cette capacité chez les animaux, bien sûr. Donc, il y a un esprit de l'homme qui existe lorsque l'homme est né. De même, il continue au verset 11, « De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qui enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Donc on voit ici deux traits très importants, deux traits très différents entre l'esprit de l'homme ou l'esprit de l'homme qui est en lui lors de la naissance. Après, le trait de l'esprit du monde, cette façon de raisonner du monde. Et nous savons qu'il y a un côté spirituel, il y a une influence spirituelle derrière le monde, une influence que Dieu permet pour le monde. Mais aussi, il y a l'aspect ici de quelque chose qui est donné, une pensée du Seigneur, une pensée de Christ, l'Esprit de Dieu en nous. Avec ceci, nous devenons un homme spirituel, un homme capable de comprendre des choses spirituelles. Sommes-nous étonnés que Dieu soit d'accord pour nous donner son Esprit Saint alors que nous sommes toujours susceptibles à faire des fautes? J'imagine que vous avez tous envie de recevoir, comme moi, un changement du corps en esprit au retour de Jésus-Christ. Mais profitons-nous déjà et pleinement du changement d'esprit que Dieu nous a déjà offert dans cette vie actuelle? Il y a la possibilité de changer, il le faut, mais profitons-nous pleinement du changement capable, du changement possible dans cette vie actuelle. Il y a un changement possible dans notre façon de penser, de notre façon de raisonner, notre façon de prioriser les choses. Afin de profiter de ce changement spirituel, ce changement en nous, il faut distinguer entre l'affection de la chair et l'affection de l'esprit. Il faut qu'on soit vigilant vis-à-vis de l'esprit du monde. Nous sommes avertis. Il faut sortir des pièges de raisonnement, des déceptions qui sont abondantes dans le monde aujourd'hui et aussi qui sont intégrées dans notre façon de penser, notre faiblesse humaine. Nous avons quand même la possibilité d'avoir des mauvais raisonnements, même si nous avons déjà reçu l'Esprit de Dieu. Nous pouvons nous appuyer sur le raisonnement humain toujours. Mais il faut faire un choix. Il faut que nous fassions le choix de ne pas nous permettre à l'affection de la chair et de nous tourner vers Dieu pour pratiquer, pour mettre en pratique l'affection de l'esprit. Donc, gardons en tête les paroles de l'apôtre Paul que nous avons lues dans l'Épître aux Romains. L'affection de la chair est une affection mortelle. C'est ce que Paul souligne. Notre façon de penser est probablement loin d'être parfaite, mais on peut s'améliorer avec l'aide de Dieu en cédant à sa volonté. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter des exemples réels du raisonnement mortel de l'homme. Des choses qui ont vraiment eu lieu. Ils sont des exemples de périls physiques que nous allons appliquer à notre vie spirituelle. Il y a un péril physique auquel ces gens s'exposent par un raisonnement mortel, un raisonnement mauvais. L'ensemble de ces exemples représente des pièges dans la façon de raisonner chez l'homme. Sommes-nous susceptibles? Je dirais que oui. Nous sommes toujours susceptibles de cette faiblesse, de ces pièges. Donc, voilà la raison pour laquelle il faut qu'on soit averti. Et en se préparant pour la Pâque et les pains sans levain, il vaut mieux considérer la possibilité d'un mauvais raisonnement chez nous-mêmes. Donc, nous sommes avertis. L'idée de piège, de raisonnement et les exemples que je vais vous présenter aujourd'hui viennent d'un article de la revue Psychology Today, Psychologie Aujourd'hui. Dans cet article, M. Jeff Wise fait une analyse poussée de gens qui sont devenus victimes d'une ou de plusieurs erreurs dans leur raisonnement. Et on va les dire, on va les décrire comme des pièges mortels, des pièges de pensée. Donc, première chose, je veux souligner ici, premier exemple, c'est un exemple qui s'appelle l'effet domino. L'effet domino. Dans l'article, on discute le danger associé avec des milieux confinés. Par exemple, l'intérieur des cuves ou des tunnels d'une mine qui risquent d'être bloqués, où on peut se trouver bloqué sans oxygène, ou même des gaz qui peuvent se produire dans ces environnements restreints et clos, qui peuvent faire expulser l'oxygène. L'effet domino, dans ce cas, arrive quand un sauveteur potentiel devient une victime. Souvent, ceci est le résultat des émotions qui arrivent lorsqu'on voit un ami, un collègue ou un proche en danger. L'état excité provoque un manque de raisonnement et de préparation dans les actions qui suivent. La personne risque de perdre son perspective et de faire de mauvaises décisions très vite sans considérer les conséquences de leurs actions, les conséquences à leur santé propre, à eux. Reportons-nous au premier chapitre de Jacques pour faire un lien à notre vie spirituelle. Quand on considère l'affection de l'esprit, il est important de considérer les émotions, leur capacité de nous donner une vision floue des choses. Dans une épreuve, les émotions peuvent nous pousser à faire des mauvaises décisions qui nous font mal ou qui font mal aux autres. Nous sommes avertis déjà que nous allons rencontrer des épreuves et Jacques nous donne ce conseil. Jacques chapitre 1 et le verset 2. Jacques chapitre 1 et le verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Ceci, ces commentaires de Jacques demandent une certaine perspective, une distanciation, si vous voulez, de l'épreuve afin de le voir mieux, de voir son but, de voir son contexte, de voir ce qui s'accomplit par cette épreuve. Donc, on voit déjà, quand on tombe dans une épreuve, il y a besoin, nous avons besoin de considérer, de se poser pour mieux comprendre, mieux analyser, mieux réfléchir sur pourquoi cette épreuve, qu'est-ce qu'il y a dans cette épreuve pour moi, qu'est-ce que je peux apprendre de cette épreuve. Mais aussi, Jacques nous prépare pour les épreuves éventuelles qui nous allons rencontrer dans la vie et aussi leur impact sur nos décisions. Il faut qu'on soit prêt parce que les épreuves vont nous arriver et nous aurons des décisions à prendre. Nous avons besoin de développer une intimité, avec notre Père éternel et notre frère aîné Jésus-Christ. Ceci est en développement tout le temps chez les chrétiens. Nous le développons afin de pouvoir, lorsque nous tombons dans une épreuve, nous savons que nous sommes en relation étroite avec le Père éternel et notre frère aîné, Jésus-Christ. Il faut apprendre à s'appuyer sur la sagesse de Dieu, la force de Dieu, la puissance de Dieu, au lieu de notre propre sagesse, ou la sagesse de l'homme en général. Si nous passons par notre propre raisonnement sans considérer la parole de Dieu, sans prendre en compte la loi de Dieu, la parole de Dieu, nous risquons de perdre la bonne perspective lorsqu'il y a une épreuve dans la vie. Jacques continue au verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui nous a tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Le fait de passer par cette étape incontournable nous permet d'avoir accès à cette sagesse d'en haut, cette sagesse divine. Dieu nous a déjà ouvert les yeux, mais à nous de nous approcher à Dieu lorsqu'il y a une épreuve. Puis, le jour de l'épreuve, au lieu de réagir par les émotions, notre premier réflexe devrait être la prière, comme au verset 5, pour l'aide de Dieu. Pour l'aide, pour la sagesse, pour la force, pour la capacité de répondre, de faire face à l'épreuve devant nous. Deuxième exemple d'un mauvais raisonnement qu'il faut remplacer par un bon raisonnement, un raisonnement ou une affection à l'esprit. Quitte ou double. Ce raisonnement qui présente des défauts est le résultat d'un désir d'éviter la perte. L'homme n'aime pas perdre ce qui appartient à lui. Ok, l'homme qui ne veut pas perdre, qu'est-ce qu'il va faire? Les gens ont tendance à éviter le risque quand ils contemplent les gains potentiels. Quand il y a la possibilité de gagner, que ce soit de l'argent ou d'autres choses, l'homme comprend ou contemple le risque. Mais ce que les psychologues ont observé, c'est que l'homme perd souvent la capacité de reconnaître le risque quand il cherche à éviter les pertes. Le fait de ne pas analyser est un risque. Donc, par exemple, si vous aviez le choix entre une perte garantie de 1 000 $ et la possibilité 50-50 de perdre 2 500 $, la majorité, d'après les études, la majorité des gens choisissent la deuxième option afin d'éviter une perte garantie, la possibilité de gagner quelque chose ou de ne pas perdre quelque chose leur permet, évite le bon raisonnement. Ils choisissent une possibilité de ne rien perdre au lieu de garantir qu'ils vont seulement perdre 1 000 $. Ceci nous illustre un peu pourquoi on prend le risque de plus en plus important afin d'éviter ce qu'on perd. Les casinos, par exemple, profitent énormément de ce type de raisonnement quand les joueurs essayent en vain de récupérer leurs pertes. Ils pensent toujours qu'ils peuvent récupérer leurs pertes, mais ils ne voient plus le risque de perdre encore plus. Pour développer l'affection de l'esprit, en passant sur ce principe spirituel, il faut qu'on s'éloigne du péché. Malheureusement, il y en a qui prennent le risque consciemment de pécher afin d'éviter les conséquences de leurs mauvaises actions. Les situations qu'ils ont provoquées, du mal qu'ils ont causé chez les autres. Le grand exemple, bien sûr, c'est le mensonge. On se dit qu'en prononçant un petit mensonge, on peut s'échapper du grand mal qu'on a fait. Souvent, on commence par des petits mensonges, mais plus les problèmes deviennent de pire en pire, plus les mensonges deviennent de plus en plus gros. Nous voyons très vite comment les choses peuvent s'aggraver dans ces situations. Les gens commencent à se faire mal et à faire mal aux autres pour éviter les conséquences de leurs actions propre à eux. Et les mensonges passent de pire en pire. Un bon principe à garder à l'esprit, c'est qu'on ne peut rien cacher de l'Éternel. C'est une vérité. On ne peut rien cacher de l'Éternel. Gardons un esprit alors pur, car le péché a lieu d'abord à l'esprit. Et quand on commence à l'esprit, à mentir, à éviter notre culpabilité, à nous convaincre que ce que nous avons fait n'est pas mauvais, alors ceci commence le cycle qui devient de plus en plus grave si on le laisse faire. Matthieu chapitre 5 et le verset 27. Passons à Matthieu 5 et le verset 27. Ici, Jésus souligne l'importance de nos pensées, de notre façon de penser à certaines choses. Et il relie aussi les pensées à l'action. Matthieu 5, et commençons à lire à partir du verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit: tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la guéhenne. On voit ici que le péché commence à l'esprit. Le péché commence dans nos pensées, dans notre façon de penser. Et c'est ce que Jésus voulait souligner. Ce n'est pas suffisant de respecter la lettre de la loi et de ne pas commettre l'adultère selon la lettre de la loi, mais aussi l'esprit de la loi. Cette idée de l'esprit est impliquée. Passons maintenant à Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Lisons les versets 1 et 2. Colossiens chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Le mot affection est associé ici avec les choses spirituelles. Les choses d'en haut et non pas les choses qui sont sur la terre. Voilà encore une fois, comme Paul a souligné dans l'Épître aux Romains, deux pistes. Une piste qui mène à la vie, une piste qui mène à la mort. 2 Corinthiens, chapitre 4. Nous avons besoin de méditer aux bénédictions que Dieu nous accorde. Nous avons beaucoup de bénédictions. Et le simple fait de connaître la vérité, d'avoir les yeux ouverts à la vérité, est une bénédiction, une grande bénédiction. 2 Corinthiens chapitre 4 et le verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Encore une fois, on revient à cette idée que ce que nous voyons avec nos yeux n'est pas éternel. Ce que nous voyons devant nous avec les yeux ne demande pas la foi, nous le voyons directement. Mais ce que nous voyons à l'esprit, ce que Dieu nous a révélé à l'esprit, demande de la foi et de la conviction et nous donne accès à ce que Dieu a prévu pour nous dans l'avenir. Un poids éternel de gloire, au-delà de toute mesure. Voilà ce que nous avons devant nous dans l'avenir. Donc, méditons aux bénédictions que Dieu nous accorde. Méditons à son caractère même, un aspect à la fois. Faisons une liste, peut-être. La puissance de Dieu. Méditons sur la puissance de Dieu. Ce que la puissance de Dieu permet dans nos vies personnelles. Ce que la puissance de Dieu a permis dans le monde, dans la création. L'amour de Dieu. Méditons l'amour de Dieu. Son amour, la miséricorde de Dieu, la sagesse de Dieu, etc. Toutes ces choses que nous méditons nous permettent de mieux comprendre le plan du salut et le plan et comme nous faisons partie de ce plan. Donc Dieu nous a donné beaucoup de bénédictions. Si nous nous concentrons seulement sur ce que nous voyons avec les yeux, nous allons perdre confiance, nous allons perdre de l'espoir. Il faut développer à l'esprit cette affection de l'esprit. Louons l'Éternel avec des psaumes pendant l'assemblée sabbatique ou même toute seule et contemplons les paroles des psaumes, tout ce que Dieu nous accorde. Méditons sur ces choses. Troisième exemple, l'aveuglement situationnel. Ce raisonnement qui présente des défauts est dû à un échec de rester conscient de l'environnement qui nous entoure. C'est un échec. On n'est pas conscient de ce qui se passe autour de nous. Vous avez peut-être un GPS dans la voiture ou un portable qui vous permet de suivre des indications pour retrouver une adresse. Une adresse que vous ne connaissez peut-être même pas. L'article de la revue raconte l'histoire d'un couple marié dans la soixantaine. Ils allaient traverser l'État d'Oregon aux États-Unis, qui est un État assez immense et couvert de beaucoup de forêts. C'était l'hiver, il y avait de la neige un peu partout, et ils suivaient les indications données par leur GPS sans question. Puis, au bout d'un moment, le GPS leur a dit de quitter la route principale en tournant à gauche, à côté d'un village. S'ils avaient continué sur la route principale, ils avaient encore 5 heures de route avant d'arriver à leur destination. Mais le GPS était paramétré de prendre le chemin le plus court au lieu de prendre le chemin le plus rapide. Donc, ils sont partis sur une route forestière. Quelques heures plus tard, ils se sont trouvés bloqués sur la route enneigée et dans l'impossibilité d'appeler au service de secours. Ils avaient continué à suivre les indications du GPS sans poser de questions. Ils avaient un 4x4. Ils étaient en 4x4 et ils avaient la possibilité de continuer un peu dans la neige. Mais une fois qu'ils étaient trop éloignés de la civilisation, ils sont tombés en panne. La voiture est tombée en panne et ils ont perdu le signal pour leur portable. 3 jours plus tard, ils ont trouvé un signal avec leur portable et ils ont pu parler ou appeler au shérif local. Mais ça leur a demandé 3 jours avant de trouver du secours. C'était le simple fait de ne pas observer l'environnement sur cette route forestière qui était de plus en plus rude et qui leur éloignait de la possibilité de l'aide. Considérant le danger de suivre des influences de la culture moderne sans prendre en compte la vérité et les instructions que Dieu nous révèle dans la Bible, voilà le chemin qui mène à la mort. Sommes-nous susceptibles à l'influence de la culture autour de nous? Oui, nous sommes. Il est possible d'être trahi ou d'être tenté par cette culture autour de nous. Nous l'avons autour de nous 24 heures sur 24, mais avons-nous la possibilité de chercher la bonne façon de vivre dans la Bible ou de rechercher des conseils de nos frères et sœurs et de nos sœurs dans l'Église? Nous avons cette possibilité de considérer la vérité, les instructions, les indications, des choix à faire, des choix à prendre dans la Bible. Si nous sommes trop concentrés sur le monde et sur les instructions et les indications du monde, et si nous ne connaissons pas les dangers de ce monde autour de nous, si nous sommes inconscients de ce danger, nous sommes susceptibles à cette influence. Et donc, Proverbes chapitre 11 et le verset 14, je vais juste le citer, Proverbes 11, 14, « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Quand il n'y a pas de prudence, le peuple tombe. Nous risquons de nous trébucher. Nous risquons de perdre notre chemin. Nous nous approchons à Dieu au lieu de rester fixés sur ce qui est autour de nous. Il faut fermer les yeux, il faut que nous nous approchions à Dieu pour demander du conseil en prière, de demander d'autres indications qui ne sont pas apparentes autour de nous. 1 Jean chapitre 5 et le verset 18. 1 Jean chapitre 5 et le verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Nous avons accès à quelque chose qui nous fait sortir de ce monde, qui nous fait, en termes de notre esprit, nous ne sommes pas condamnés à l'esprit du monde, à la façon de penser du monde autour de nous. Donc il faut qu'on reste vigilant à l'environnement qui nous entoure, afin de pouvoir approcher. Quand on tombe dans une situation comme celui que l'article a décrit, cette situation-là, il ne faut pas continuer sur ce chemin qui va devant nous. Ce n'est pas une bonne idée de simplement continuer sur le mauvais cheminement sans considérer la voie de Dieu, la voie sur laquelle Dieu souhaite nous conduire. Quatrième exemple, courber la carte. Courber la carte. L'esprit humain a une capacité merveilleuse de trouver de l'ordre dans le chaos. Nous contemplons les nuages et nous apercevons des brebis de temps en temps. Cette capacité est très utile pour faire des choix et pour créer des théories qui expliquent ce que nous observons. Par contre, ce qui représente un atout peut aussi nous limiter dans notre façon de raisonner. Par exemple, l'histoire de deux skieurs dans le Wyoming qui voulait faire du ski hors piste. Ils s'éloignaient des pistes à Jackson Hole et ils étaient convaincus qu'ils savaient où ils se trouvaient. Ils cherchaient à retourner alors à la station de ski en suivant un petit ruisseau qu'ils voyaient sur la carte. Ils pensaient, même ils étaient certains en regardant la carte, qu'ils étaient d'un côté du ruisseau quand ils étaient sur l'autre bord du ruisseau. Pendant des heures, ils étaient sûrs qu'ils s'approchaient à la station de ski, mais en fait, ils s'en éloignaient. Nous avons tous fait quelque chose de pareil, j'imagine, quand nous avons cherché une adresse ou quand nous avons imaginé qu'on était dans le bon sens, dans la ville, peut-être dans la ville de Paris. Des fois, on pense qu'on va de sud au nord, mais en fait, comme les routes sont faites, éventuellement, ça peut nous faire presque le demi-tour de temps en temps. Mais le foie dans lequel ces deux jeunes se trouvaient aggravait la situation. Les services de secours, finalement, les ont trouvés encore vivants. Mais ils se sont trompés du côté du ruisseau, et ceci leur a le fait qu'ils ne voulaient pas voir la possibilité qu'ils étaient sur l'autre bord du ruisseau. Ils n'avaient pas vraiment considéré cette possibilité. Ceci leur a bloqué un raisonnement fixe dans leur tête. Il existe des théories et des arguments qui sont capables de tordre notre façon de voir le monde autour de nous. Je pense à l'évolution et les théories darwiniennes. Je pense à la sexualité et à la nature des sexes pour les théories modernes. Je pense au concubinage. Je pense au relativisme moral et la pensée postmoderniste. Toutes ces choses donnent à l'homme une sorte de vision du monde, une façon de comprendre le monde autour de lui. Et toutes ces philosophies modernes peuvent nous éloigner de la parole de Dieu. Si on accepte certains aspects de ces théories, de ces philosophies, et si on les suit sans considérer qu'ils nous mènent dans le mauvais sens, en fait, on peut éventuellement s'éloigner même de la parole de Dieu. L'apôtre Pierre nous avertit. 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur. Enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par de ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Donc, il y en a qui veulent oublier les vérités bibliques, les choses qui sont écrites même dans la Bible pour nous enseigner sur le début de la création. Attention de ne pas permettre à des théories qui sont contre la parole de Dieu de nous décevoir. Prions Dieu pour la protection de notre esprit et de l'esprit de nos enfants qui font face à ces idées et ces théories à l'école tous les jours. prions Dieu pour cette protection, pour cette possibilité de comprendre que, bien sûr, il y a des théories dans ce monde aujourd'hui qui sont faites pour nous éloigner de Dieu. Cinquième exemple, et dernier exemple, le dépassement de la ligne rouge. Dépassement de la ligne rouge. L'alpinisme extrême est en fait une course contre la montre. Dans les endroits très élevés, l'oxygène est limité et le froid attaque les alpinistes. S'attarder dans ces conditions peut provoquer le péril. Donc, quand les alpinistes se préparent pour l'escale au sommet des plus hautes montagnes de ce monde, il faut qu'ils se fixent une heure à laquelle il faut absolument faire le demi-tour s'ils n'avaient pas encore atteint, s'ils n'ont pas encore atteint le sommet. Au Mont Everest, plusieurs personnes qui n'ont pas respecté cette ligne rouge ont perdu la vie. La logique fatale, c'est de se convaincre que les conséquences du dépassement de la ligne rouge ne sont pas aussi graves qu'on avait imaginé. Ils se disent qu'ils peuvent aller un peu plus loin pour atteindre le sommet. Ils sont tellement engagés dans l'aventure d'atteindre le sommet. Ils ont dépensé beaucoup d'argent, par exemple. Ils ont fait de l'entraînement, ils ont peut-être souffert et ils n'ont pas envie de rentrer sans avoir atteint leur objectif. Le psychologue, M. Wise, explique qu'une fois qu'on dépasse la ligne rouge, on n'a plus de rappel qu'on va dans le mauvais sens, parce que ceci est le dernier, la dernière étape à franchir, ou la dernière ligne qui démarque un demi-tour. Si on le dépasse, on n'a pas de balisage après. Dépasser un tout petit peu, nous permet d'aller un peu plus loin. Et puis, dépasser encore un petit peu plus, nous permet d'aller encore un petit peu plus loin. Et en fait, ça continue. Le cycle continue. On peut continuer d'aller un peu plus loin, mais en fait, ce que nous n'avons pas pris en compte, c'est le fait de nous éloigner de la ligne rouge, de franchir la ligne rouge et de continuer, en fait, ne nous permet pas le retour. Si le temps est limité, nous n'avons pas la possibilité d'un retour. C'est ça le danger. Les gens, ils sont perdus dans leur raisonnement. Qu'ils peuvent continuer encore plus loin. Et encore plus trichant, c'est le fait qu'en dépassant la ligne rouge, il n'y a pas de conséquences immédiates. Les conséquences ne sont pas tout de suite. C'est plus tard qu'on se rend compte qu'on a fait le mauvais choix. Nous sommes tous spirituellement susceptibles à l'idée qu'un petit péché n'est pas grave, mais la pénalité pour le péché est la mort. La ligne rouge est là, et la ligne ne change pas. Certes, les conséquences immédiates peuvent varier. Dans le contexte du dépassement de la ligne rouge, si on le dépasse avec ce qu'on appellerait une petite faute, on peut continuer très loin. Le manque de conséquences immédiates peut nous aveugler de la gravité du péché. On arrive très vite à l'affection de la chair, un raisonnement qui ne prend pas en compte le spirituel. C'est pourquoi la foi est aussi importante dans notre façon de penser au péché que c'est dans notre façon de penser à la vie éternelle et au royaume de Dieu. Les conséquences du péché ne sont pas toujours apparentes tout de suite. Ils sont éventuellement là, mais les conséquences du péché peuvent être décalées de l'acte. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit conscient de cette ligne rouge. Il ne faut pas prendre la logique que le dépassement de la ligne rouge ne nous fait aucun mal. Le péché nous éloigne de Dieu de notre côté, mais il ne nous abandonnera jamais. Nous avons toujours la possibilité de se repentir. De se repentir. Romains chapitre 2 et le verset 3. Romains chapitre 2 et le verset 3. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité? Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Le caractère divin se développe avec le temps et l'expérience. Nous apprenons à choisir la justice et à résister au péché, de rester humble afin de pouvoir apprendre de cette voie qui nous mène à la vie. Tous les ans, nous avons besoin de considérer notre propre faiblesse, nos erreurs, nos éloignements de Dieu. Et il nous donne un rappel annuel lorsque nous faisons la préparation pour la Pâque et pour les jours où la fête des pains sans levain. Donc, profitons-nous de cette préparation afin de sortir d'une logique, des logiques ou d'un raisonnement qui est trompeur. En conclusion, rapportons-nous à Deutéronome chapitre 30. Le raisonnement humain est trompeur jusqu'au point de nous mettre en péril, comme dans les exemples que nous venons d'aborder. Il nous faut l'aide de Dieu à développer la pensée de Christ qui nous aide à éviter les pièges du diable. Pour terminer, lisons à partir du verset 15. Deutéronome chapitre 30, à partir du verset 15. Je considère de temps en temps le fait que ce passage nous permet une sorte de remise à zéro, une sorte de commencement à nouveau. Nous avons bien sûr fait un choix, nous avons mis nos vies entre les mains de l'Éternel. Mais lorsque nous nous apercevons que nous sommes éloignés, que nous avons péché et que nous avons développé de mauvaises habitudes même dans notre façon de penser, et que nous penchons vers l'affection de la chair au lieu de l'affection de l'esprit, alors, ce passage me rappelle du fait que nous avons la possibilité de nous repentir. C'est la voix de Dieu, c'est ce cri de l'Éternel qui nous permet de connaître sa miséricorde avec nous. Le fait qu'il voudrait qu'on choisisse la bonne voie et de ne pas perdre ses enfants avec les mensonges de ce monde qui nous entoure. Terminons avec une lecture de Deutéronome, chapitre 30, et le verset 15 à 20. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que Dieu vive et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession. Après avoir passé le Jourdain, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. »